Chapitre 7.
Bosch s'avança sous les yeux de quatre personnes, dont trois qu'il ne connaissait pas.
« Harry, lui lança Ballard, je viens juste de mettre l'équipe au courant des derniers développements dans l'affaire Perlman. On a donc de l'ADN provenant de l'empreinte de paume et on l'a mis en analyse urgente pour correspondance possible. On devrait savoir si c'est bon ou pas avant la fin de la semaine. »
« Parfait, dit-il. » Et d'un geste de la main, il salua ses collègues qu'il n'avait pas encore rencontrés. « Bonjour tout le monde !»«
Ah oui !» reprit Ballard, « je vous présente Harry Bosch !»
Tandis que celui-ci s'installait à son poste de travail, Ballard lui présenta Masser, Rawls et Atterras. Masser et Rawls adressèrent un hochement de tête à Bosch. Atterras, elle, se leva pour lui serrer la main par-dessus la demi-cloison. Puis, comme si elle essayait d'y lire quelque chose, elle la lui tint pendant 2 secondes embarrassantes, afin d'enfin la lâcher. Du coup, Rawls se leva à son tour et tendit lui aussi la main à Bosch.
« C'était drôlement bien pensé, le coup de l'empreinte de paume, dit-il.
« Oh, je suis sûr que quelqu'un d'ici y aurait pensé aussi, lui renvoya Bosch.
« Le conseiller va être impressionné.
« Allons, allons, dit Ballard, ne nous emballons pas avant d'avoir les résultats. »
Bosch se souvint alors que Rawls était le seul membre de l'équipe que Ballard n'avait pas choisi elle-même. Il s'assit calmement à son poste, Rawls et Atterras l'imitant, tandis que Ballard poursuivait.
« Et donc on se faisait une réunion d'équipe. Ce que j'aimerais, c'est parler des affaires sur lesquelles nous travaillons, parce que nous venons tous d'endroits de services et d'agences des forces de l'ordre différents et que pour moi, tout mettre sur la table est une bonne chose. » On ne sait jamais d'où peut sortir une bonne idée. Comme toi et ta partielle de paume.
« Ok, dit Bosch.
Il se sentait encore mal à l'aise sous les regards des autres. Il avait l'impression qu'on allait l'appeler au tableau et qu'il n'avait pas fait ses devoirs.
« Bien, enchaîna-t-elle. Je sais que tu n'as pas encore attaqué l'affaire Gallagher, mais... Et si tu nous faisais un résumé de la première enquête et nous disais dans quelle direction tu penses travailler ?»
D'accord, commença-t-il en hésitant. La première chose, enfin je crois, c'est que je ne parle pas de l'affaire Gallagher. Pour moi, c'est l'affaire de la famille Gallagher, parce qu'il s'agit d'un quadruple meurtre, de l'assassinat d'une famille entière, la mère, le père, la fille de 9 ans et le fils de 13.
C'est horrible, dit Atterras.
Oui, c'est pas très beau. Il n'y a qu'un certain type de tueur pour anéantir toute une famille comme il l'a fait.
Il marqua une pause pour voir s'il y avait d'autres commentaires, puis il enchaîna.
Les Gallagher vivaient dans la vallée, non loin de la frontière entre Sherman Oaks et Van Nuys, et au début, on a cru que leur disparition était volontaire. Aucun voisin ne les avait vus partir, mais dès qu'il a été établi qu'ils l'avaient fait, on s'est dit qu'ils avaient filé à cause de problèmes financiers, vous savez bien. On fait ses valises et on s'installe ailleurs.
« Ils avaient une affaire familiale, sans qui ma sœur ?»«
Pas vraiment. Monsieur Gallagher, Stephen Gallagher, était entrepreneur industriel. Il possédait 2 ou 3 hangars de bonne taille et un site de stockage de matériel sur la route de San Fernando à Sylmar. Et il louait des grues, des élévateurs hydrauliques et toutes sortes d'engins dont on se sert dans le bâtiment. Un de ces hangars était même uniquement réservé aux échafaudages et autres.
« Et on les a retrouvés morts, maintenant je m'en souviens, » dit Atterras. « Dans le désert. Et c'est là que vous étiez ce matin. »
Bosch la regarda un instant et acquiesça.
« Oui, ils ont été retrouvés 1 an après leur disparition. » Une géologue de Caltech, campus de Northridge, et ses étudiants se trouvaient dans le désert de Mojave, où ils étudiaient le changement climatique. Et c'est là qu'ils ont découvert le corps du gamin. Enfin, ce qu'il en restait. La fosse avait été endommagée par des animaux, des coyotes ou autres. Cela a conduit à la découverte des 4 cadavres, qui ont fini par être identifiés comme étant ceux des Gallagher. D'après des dossiers dentaires. Le garçon, Stephen Jr., avait un appareil.
Mais ce n'était pas du ressort du comté de San Bernardino,
demanda ma sœur.
En fait, c'était de celui d'Inayo, et il y a eu 2 enquêtes conjointes. Je faisais alors partie de la première unité des affaires non résolues, et nous avons hérité du dossier parce qu'au bout d'1 an, la piste était considérée comme froide. Je dirigeais l'enquête, et j'ai beaucoup travaillé sur cette affaire. Mais je n'ai jamais réussi à la résoudre. Après, j'ai pris ma retraite, et en gros, le dossier a atterri sur une étagère. Mais maintenant, je suis de retour, et je l'ai repris. Eh oui, je suis allé dans le désert ce matin.
Il regarda Ballard pour voir s'il en avait dit assez. « Pourquoi y es-tu allé ? » demanda-t-elle.
Il savait qu'elle connaissait déjà la réponse. Il n'aimait pas être mis sur la sellette de cette façon et devoir discuter de ses décisions ou les justifier. « Je me suis juste dit que c'était l'endroit où il fallait commencer, » répondit-il, « pour essayer de retrouver de l'élan. Et pendant que j'y étais, l'enquêteur des services du shérif d'Inayo, avec qui j'avais travaillé, s'est pointé. Il n'y avait rien de neuf non plus de son côté. »
« Tu pourrais nous parler de Finbar McShane ?» reprit Ballard. « Plus nous en saurons tous, plus nous pourrions avoir des idées. »
Stephen Gallagher était né en Irlande, à Dublin. Un jour, il a rencontré une Américaine de Los Angeles, Jennifer Clark. Ils sont revenus ici, ont fini par se marier, et il a monté sa boîte. À un moment donné, il a embauché un autre Irlandais, du nom de Finbar McShane. Celui-là était de Belfast, en Irlande du Nord, et il n'a jamais été établi qu'il se connaissait d'avant. McShane n'était pas un associé, mais il faisait tourner l'affaire avec Stephen. Après la disparition des Gallagher, McShane a continué à faire marcher la société, et une pièce après l'autre, il a commencé à vendre l'équipement. En résumé, 1 an plus tard, on a retrouvé les corps, alors qu'ils n'étaient pas censés être découverts. Et devinez quoi ? Exemple classique de « je liquide tout et je m'enfuis », McShane, lui, a disparu, et les hangars et le site de stockage du matériel sont vides.
« Et ça signifie quoi, votre « je liquide tout et je m'enfuis » ?» demanda Atterras.
« C'est un genre d'arnaque, une escroquerie où on se débarrasse d'une affaire en commandant des trucs pour les revendre et en gros tout liquider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien » et que la boîte ne s'effondre et laisse tous les fournisseurs le bec dans l'eau avec leurs factures.
Vous avez déjà regardé Les Sopranos ? Demanda Rawls. Génial la série, et il n'arrêtait pas de faire ça.
Ce qui fait que McShane est votre suspect, dit ma sœur, en essayant de revenir au récit de Bosch. Une idée de ce que toutes ces ventes de matériel lui ont rapporté ? On a réussi à les tracer, il y en a eu pour un peu plus de 800 000 $. 4 vies pour 800 000, dit Rawls.
Si c'est bien lui qui a fait le coup,
fit remarquer Atterras.
Parle-leur de la lettre, dit Ballard.
Un jour, on a reçu une lettre adressée au LAPD, et censément envoyée par lui, reprit Bosch. Il y clamait son innocence et affirmait avoir filé parce qu'il ne voulait pas être accusé à tort.
« Tampon de la poste ?» demanda Atterras.
« Local. On a alerté la police des frontières, ce qui veut dire que s'il a quitté les États-Unis et est retourné à Belfast ou ailleurs, il l'a fait sans passeport.
« Moi, je pense qu'il est encore ici, » dit Atterras. « Je le sens. »
Bosch la regarda, puis tourna les yeux vers Ballard.
Parle-nous des éléments de preuve, dit-elle. Comment ont-ils été tués ?
Ils ont été exécutés. Avec une cloueuse industrielle, prise dans un des hangars de Gallagher. On l'a retrouvée avec les corps, et certains éléments de preuve indiquent que la fosse a été creusée avec une excavatrice.
C'est quoi exactement une excavatrice, bon sang ? Demanda ma sœur.
C'est un engin équipé de 2 roues qu'on peut tirer à l'arrière d'un pick-up. J'en ai une photo quelque part que je pourrais vous montrer. L'important là-dedans, c'est que ce trou n'a pas été creusé avec une pelle. Les contours en sont bien trop précis et il est clair que de la roche a été fendue par quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une pelle ou une pioche. La fosse était assez près de la route pavée pour que l'assassin puisse reculer
avec son excavatrice et s'en servir pour faire ça rapidement et s'en aller. En plus de quoi, une des premières machines que McShane a vendues après la disparition de la famille n'est autre qu'une excavatrice. Et on peut le prouver.
Il ouvrit un des livres du meurtre posé sur son bureau et se mit à en feuilleter les pages pour y chercher une photo de l'excavatrice sans s'interrompre.
On a été en mesure de remonter la vente et l'acheteur nous a laissé examiner la machine. Il y avait encore un morceau de roche coincé dans la bande de roulement et il correspondait à la créosote du site funéraire.
« Et ils étaient tous les quatre dans une seule fosse ?» demanda Rawls.
« Ouais, c'était la façon la plus rapide de procéder. Le trou faisait environ 2 mètres sur 4, pour une profondeur de 1,10 m. Les parents y ont été jetés en premier, les enfants étant ensuite balancés par-dessus, avec la cloueuse.
Il trouva enfin une brochure de la Shamrock Industrial Rentals, montrant l'excavatrice en question, et la passa à ma sœur.
« Sauf que c'est le seul lien qu'on n'a jamais établi avec McShane, et ce n'était pas assez pour qu'on puisse lancer un mandat d'arrestation contre lui, » reprit Bosch.
« Parce que vous êtes allé voir le district attorney avec ça ?» demanda ma sœur. « Moi, j'aurais été tenté d'inculper. »
« Oui, faut croire que j'aurais mieux fait d'aller vous voir. L'adjoint auquel j'ai apporté le dossier m'a dit qu'il en voulait plus. » Que McShane ait vendu l'excavatrice ne prouvait pas qu'il s'en soit servi pour enterrer toute la famille. Il y avait des trous dans la chaîne d'épreuve. Le site de stockage des machines n'étant pas gardé la nuit, quelqu'un aurait pu se servir des clés de Gallagher pour l'ouvrir et emprunter l'excavatrice.
« Passablement tiré par les cheveux, tout ça !» fit remarquer ma sœur.
« C'est ce que je pensais, moi aussi. » Cela dit, je n'ai pas réussi à l'emporter. On m'a ordonné de trouver d'autres preuves, et je n'en ai pas trouvé. D'où le plan B. On coince McShane, on le colle dans une salle d'interrogatoire, et on fait ce qu'il faut pour qu'il crache le morceau. Mais ça n'est jamais arrivé, il est toujours dans la nature, et c'est là qu'on en est.
Il avait terminé son résumé. Il attendit d'autres questions et suggestions. Il n'eut droit qu'à du silence, jusqu'au moment où Hatteras finit par lui demander.
« Vous avez toujours la lettre dans laquelle McShane proclame son innocence ?»«
Oui. Elle a été écrite à la main sur une feuille de papier en tête de la société. »«
Non, je voulais dire, vous l'avez ici avec vous ou elle est aux archives ?»«
Je l'ai ici. » Il ouvrit le livre du meurtre le plus épais parce qu'il le savait, c'était celui qui contenait les pochettes en plastique avec les photos de l'affaire. La lettre avait été glissée dans l'une d'elles. Il écarta les anneaux du classeur, sortit la pochette où était enfermée la lettre et l'attendit à la terrasse.
Elle la regarda un long moment, tenant la pochette à deux mains.
« Je peux la sortir ? » demanda-t-elle. « Pourquoi ? C'est un élément de preuve. » « J'aimerais la tenir. »« Elle a été traitée à l'époque, non ?»
voulut savoir Ballard.
« Oui, aucune empreinte. Mais il y a eu correspondance avec la signature de McShane. »«
Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle peut la sortir parce qu'elle a été traitée. »«
J'imagine que oui, mais bon... »
Il regarda la terrasse ouvrir la pochette, en extraire la lettre, et la tenir toujours à deux mains, et toujours sans gants. Bosch se tourna vers Ballard, l'air de ne pas comprendre. Mais avant même qu'il puisse parler, Hatteras déclara
« Je crois qu'il dit la vérité.
Quoi ?» demanda Bosch.
« McShane ?» répondit Hatteras. « Je pense qu'il disait la vérité quand il a écrit qu'il était innocent, mais ne pouvait pas le prouver. »
« Mais qu'est-ce que vous racontez ?» s'exclama Bosch. « Vous ne l'avez même pas... »
Puis il se rappela, mais Ballard prit la parole avant qu'il puisse le faire.
« On met ça de côté pour l'instant, » dit-elle. « Je pense qu'il vaudrait mieux que tout le monde se remette à ses dossiers pendant que moi je finis de faire le tour du propriétaire à Harry. »
Ma sœur rendit la brochure à Bosch, imitée par Hatteras, qui lui tendit la lettre de McShane, bien remise dans sa pochette de protection. Ballard se leva.
Commençons par la salle d'interrogatoire, dit-elle. Et elle se dirigea vers le couloir conduisant à l'entrée de la salle des archives. Bosch remit la brochure et la lettre entre les anneaux du classeur, les ferma d'un coup sec, puis la suivit.